BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
Mais
j'ai dit, il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, comme tous les soirs jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors est-ce que depuis le temps qu'on nous l'annonce, est-ce que cette fois on n'aurait pas passé le plus dur, ça y est, sur l'inflation? Parce que les chiffres qui sont tombés ce matin sont plutôt encourageants. Hein, 5,1% d'inflation à la fin mai, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Bon, on posera la question à Thomas Asportas dans un instant, bien sûr.
Et puis on va parler hydrogène ce soir, bien sûr, parce que rappelez-vous, le gouvernement a présenté de nouvelles mesures pour le promouvoir le mois dernier dans son projet Industrie Verte. Or, le lobby France Hydrogène estime, lui, que le compte n'y est pas. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes.
Et puis on parlera apprentissage et artisanat, parce que c'est aujourd'hui que débute la Semaine nationale de l'artisanat, avec des métiers qui recrutent. Répétons-le, serinons-le, et des véritables perspectives de carrière. Ben, le patron de CMA France sera avec nous tout à l'heure à 19h15 pour en parler sur BFM Business. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, parce qu'on est ensemble jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est la bonne nouvelle effectivement du jour, l'inflation qui ralentit fin mai, 5,1% contre 5,9%. Pour 101 mois plus tôt. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
C'est un très très bon chiffre, mais alors, on ne l'attendait pas forcément ce bon chiffre, Thomas, pour le coup. Hein.
Oui, effectivement, c'est une surprise. On ne s'attendait pas à un tel recul de l'inflation. En fait, il y a deux bonnes nouvelles derrière ce chiffre. La première, c'est qu'effectivement, l'inflation décroche assez nettement. Elle recule de quasiment un point en un mois et elle retombe au niveau d'il y a un an. Ouais. Ça faisait un an qu'on était scotché autour des 6% et là, d'un coup, on passe en tout juste un mois à 5%. Donc ça fait vraiment un décrochage significatif. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas prévu. Puisque dans sa dernière note de conjoncture qui date du 5 mai, donc il n'y a vraiment pas longtemps, l'INSEE tablait sur une inflation qui reculait à 5,7 au mois de mai, puis à 5,4 au mois de juin. Et le résultat, on est finalement à 5,1 en mai. Donc on voit que ça baisse beaucoup plus vite que prévu.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça baisse plus vite
que prévu? Ce qui s'est passé, c'est que toutes les composantes de l'inflation, sans exception, se replient, et plus rapidement que ce qui avait été anticipé. En premier lieu, évidemment, l'énergie. La hausse des prix, elle est quasiment en train de s'éteindre. Mmh. Elle n'est plus que de 2%, alors qu'un an plus tôt, on était à 28%. Donc vraiment retour à la normale. Ensuite, les produits manufacturés, l'inflation passe de 4,6 à 4,1. Les produits à la production baissent et ça se répercute tout de suite dans les prix de vente. Et enfin, dans les services, l'inflation n'augmente pas, elle reste à 3%. Et, cerise sur le gâteau, ça commence même à baisser aussi. Et enfin, dans l'alimentaire, puisqu'on passe en un mois de 15 à 14% d'inflation. Alors évidemment, 14% d'inflation, ça reste encore colossal. Mais si ce début de baisse d'inflation se confirme dans les prochains mois, eh bien ça voudrait dire qu'on est enfin, ça y est, sur la bonne voie. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France a été interrogé ce matin sur la question. On lui a demandé de réagir à ce chiffre et il a répondu, je le cite, que le pic de l'inflation est probablement derrière nous. Donc si ça se confirme dans les prochains mois, eh bien ça voudra dire que le gouvernement et la Banque de France finalement auront eu raison dans leurs prévisions, puisque ça fait des mois qu'ils tapent sur une baisse de l'inflation au début de l'été, donc là ça y est, on l'a avec ce chiffre de ce matin, et deux, un repli tout au long du second semestre pour atterrir autour des 3,5% d'inflation en fin d'année. Donc on va vraiment regarder de près les chiffres d'inflation cet été, parce que ça va vraiment être le moment de vérité.
Bon, bah effectivement, merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'on a passé le plus dur? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. La Banque de France semble dire que ça y est, Audrey, désormais.
Oui, alors en effet, on peut l'espérer. Maintenant, la lutte contre l'inflation, ça reste quand même globalement toujours une redoutable machine à générer de la déception. Rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, Bruno Le Maire nous annonçait qu'on vivait le pic de l'inflation et qu'elle allait refluer très rapidement. Or, un an plus tard, on vit quand même avec une inflation quotidiennement à deux chiffres. Maintenant, en effet, on peut estimer que le pari n'est pas si risqué que ça, de la part de Villeroy de Gallo, de s'engager à un retour à 2% d'ici fin 2024, parce que comme vient de l'expliquer Thomas, tous les indicateurs repassent au vert.
Bon, enfin en tout cas, l'inflation a beau baissé, Bruno Le Maire a remis un petit coup de pression aujourd'hui sur les distributeurs et fournisseurs pour qu'ils se remettent autour de la table. Parlez-vous, alors pression surtout sur les fournisseurs pour qu'enfin ils baissent leurs prix, sinon il y aura des sanctions, écoutez le ministre.
J'avais laissé jusque fin mai, début juin, nous y sommes.
Donc je sanctionnerai les entreprises si elles ne le font pas.
Plus précis, ce n'est pas une sanction, ce sera une taxation. Voilà, les très grandes entreprises de l'agroalimentaire, les 75 qui étaient dans mon bureau, qui s'étaient engagées à redistribuer les marges aux consommateurs en baissant les prix avec des négociations commerciales, soit elles le font et tout se passera bien. Et je leur fais confiance pour tenir parole. Mais si elles ne tiennent pas parole, je pense que je serais fondé à utiliser l'instrument fiscal pour récupérer les marges et rendre ces marges aux consommateurs. Ça.
Voilà, la menace de Bruno Le Maire ce matin à l'intention des fournisseurs. Le dossier des retraites, le ton monte à l'Assemblée. La majorité a réussi aujourd'hui à supprimer du fameux texte Liot. La proposition qui prévoyait de revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans, il a suffi de quelques amendements lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales. Ça n'a pas plu aux députés NUPES qui siégeaient dans cette commission. Ils en ont claqué la porte et se disent victimes, je cite, de magouilles de la part de la majorité. Et puis dans l'actualité des entreprises, on a ce gros contrat annoncé ce matin par Total Energy. Le français va s'associer à un groupe belge pour aller se développer aux États-Unis. Total cède aux sirènes de l'IRA américain pour aller produire du gaz de synthèse. Gaz de synthèse qui pourrait prendre gros service à certaines industries très lourdes. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Le e-gaz ou gaz synthétique a exactement les mêmes propriétés que le gaz naturel classique, sauf qu'il est plus vertueux pour l'environnement. Au lieu d'aller le chercher dans les sous-sols, on le fabrique avec d'un côté de l'hydrogène et de l'autre du CO2. Total Energy va donc produire aux États-Unis de l'hydrogène vert avec un électrolyseur alimenté par de l'énergie éolienne. Cet hydrogène sera ensuite combiné avec du CO2. Le gaz peut ensuite être transporté en pipeline ou liquéfié. Total Energy envisage une production de 200 000 tonnes par an. Avantage, ce gaz utilise les infrastructures existantes et les clients finaux, comme les aciéries ou les usines pharmaceutiques, n'ont aucune modification à faire dans leurs installations. Cette annonce de Total participe d'un mouvement de fonds mondial qui est en cours dans le domaine des gaz et plus largement des carburants de synthèse qui sont présentés de plus en plus comme la solution immédiate pour décarboner les industries et les transports.
L'e-gaz, est-ce que c'est une alternative sur laquelle il faut compter pour vous, Audrey, finalement?
Oui, bien sûr. Évidemment. Maintenant, pourquoi est-ce que Total part aux États-Unis? Enfin, il faut le dire, hein, si l'IRA américain est aussi attractif, c'est aussi parce que il vient se cumuler avec un différentiel de prix sur l'énergie énorme, d'où l'importance de se mettre d'accord dans la durée sur les prix négociés entre nos fournisseurs d'énergie et nos industriels. Et c'est quand même le sens de la réforme du marché de l'électricité hein, que pousse la France et qui devrait enfin arriver en fin d'année.
Total qui cède aux sirènes de l'IRA comme Stellantis hier. On en parlait, on en reparlera tout à l'heure dans le grand débat sur BFM Business. Et puis alors cette histoire pour finir qui nous prouve justement qu'à l'heure où tout le monde ne parle que de réindustrialisation, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. À Calais, vous avez une grosse usine de principes actifs qui ferme aujourd'hui. Ces principes actifs pharmaceutiques dont on a beaucoup parlé. Elle avait été placée en redressement judiciaire l'an dernier, mais elle n'a pas trouvé de repreneur. Hélène Cornet.
Près d'une dizaine d'investisseurs a étudié le dossier, aucun n'a donné suite. L'usine de Calais ferme définitivement, la faute à une conjonction de facteurs défavorables. Des coûts de production trop élevés, l'installation à proximité de concurrents, des aléas extérieurs comme la crise migratoire. Malgré 26 millions d'euros injectés depuis 10 ans dans l'usine, il n'y avait plus de perspective de croissance. Le coup de grâce a été donné par deux futurs clients de laboratoires pharmaceutiques qui ont finalement abandonné chacun leur étude clinique. Rageant, alors que le mot d'ordre était à la réindustrialisation des principes actifs pharmaceutiques en France. La relocalisation de produits à gros volume est illusoire, explique David Simonet, PDG du groupe Accentis, devant le Sénat.
Force est de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui de place pour de la relocalisation, pour du développement de molécules à très fort volume. La compétitivité sur les molécules à très fort volume est encore beaucoup plus dégradée par rapport aux zones Asie. C'est pour ça que l'enseignement que j'en tire, c'est que la relocalisation ne peut se faire que sur des petites séries, des molécules à très forte valeur ajoutée.
Un échec, reconnaît le dirigeant, qui regrette qu'aucun industriel n'ait pu prendre le relais. Maintenir coûte que coûte l'outil industriel à Calais commençait, selon lui, à mettre en péril l'avenir du groupe tout entier.
Voilà, le site Accentis de Calais qui ferme ses portes aujourd'hui, faute de repreneur. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Les marchés. On retrouve Aude Kersulec à Euronext, à la Défense pour BFM Business. Bonsoir Aude, encore une forte baisse pour le marché parisien. On aimerait bien que les choses se concluent sur le plafond de la dette américaine, Aude.
Oui, notamment. Alors, moins 1,5% aujourd'hui, troisième baisse de la semaine. Et en fait, cette journée a été une succession de mauvaises nouvelles qui ont fait flancher les marchés européens comme américains d'abord. D'ailleurs, alors... d'abord, avant l'ouverture ce matin en provenance de la Chine, l'économie qui continue de se contracter plus fortement que prévu sur le mois de mai. Selon les PMI, on avait un petit peu tous les secteurs pénalisés sur le CAC 40, du luxe, de l'automobile, des matières premières aussi, avec le pétrole qui continue de se replier. Et puis, coup de grâce cet après-midi aux États-Unis avec ces chiffres de l'emploi, ces créations d'emplois bien meilleures que prévues dans le privé. Ça veut dire que la Fed ne changera pas de taux de politique monétaire. Donc, dans ce contexte-là, bien, c'est un petit peu tous les secteurs là qui baissaient. Et puis, aux États-Unis, c'est vrai, toujours cette attente du vote de la Chambre des représentants sur le compromis sur la dette. Donc, beaucoup, beaucoup de prudence, mais beaucoup de volume aussi sur les marchés. À noter la star du jour, Capgemini, qui a su parler au marché parce qu'on nous a parlé d'IA avec une extension de partenariat avec Google Cloud, donc sur l'intelligence artificielle. Le titre gagne 6,8% à contre-courant de quasiment tout le reste. Un indice parisien qui passe ce soir sous les 7100 points. Et sur le mois de mai, on perd 4%. C'est la première baisse de l'année.
Merci beaucoup, Aude Karsulek, donc à Euronext, à la Défense pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street pendant ce temps. C'est pas très joyeux non plus. Moins 0,77% pour le Dow Jones. 32 791 points. Puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui perd également 0,7%, même tendance, hein, 12 923 points. Tout ça à la mi-séance. 18h12, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business.
Good Evening Business, l'invité.
Hydrogène. Toujours lui, encore l'hydrogène.
Et est-ce que le gouvernement doit être plus ambitieux?
C'est une bonne question. On va en parler avec Christelle Verquin qui est avec nous. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de France Hydrogène, qu'on présente comme le principal lobby de l'hydrogène. C'est quoi exactement? Combien de structures qui regroupent?
Alors France Hydrogène, c'est effectivement une association qui s'est constituée pour défendre les intérêts de la filière hydrogène française, qui rassemble plus de 460 membres aujourd'hui, aussi bien du secteur de la recherche que des groupes industriels. Donc plus de 350 acteurs industriels, une centaine de grands groupes, plus de 200 PME et puis des collectivités territoriales.
Voilà donc pour la présentation. Alors vous êtes avec nous ce soir parce que vous avez publié ce matin un manifeste, une longue lettre, dans lequel vous dites oui, le gouvernement a présenté ces derniers mois, le mois dernier notamment, son projet Industrie Verte, 16 mai, on en a beaucoup parlé, il y a un volet hydrogène, mais vous semblez considérer qu'il joue un petit peu petit bras, le gouvernement, dans cette histoire. C'est quoi le fond de votre pensée aujourd'hui chez France Hydrogène?
Alors, le fond de notre pensée chez France Hydrogène remonte à un petit peu plus loin que le projet de loi Industrie Verte. En fait, on s'inscrit pleinement dans les annonces du président de la République de novembre dernier, qui annonçait vouloir décarboner les 50 plus grands émetteurs industriels rapidement, et également dans les travaux qui ont cours actuellement sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans ce contexte-là, le gouvernement a souhaité revisiter la stratégie nationale hydrogène qui avait été présentée en septembre 2020, à l'aune un petit peu des évolutions qu'on constate. Et j'entendais là, en arrivant sur votre plateau, les annonces de Total typiquement d'aller investir aux États-Unis. Voilà, donc dans un contexte très dynamique au niveau international, le gouvernement a souhaité revoir un petit peu la trajectoire de déploiement qui est la nôtre, et on est pleinement d'accord pour revisiter ensemble cette stratégie. Et notre approche, c'est de dire, enfin c'est l'objectif du manifeste, c'est de montrer que l'ensemble des acteurs industriels, en particulier du tissu économique des PME qui s'est mobilisé à la suite du gouvernement, à la suite des annonces de cette stratégie en septembre 2020, souhaite faire savoir que ce tissu économique se structure, que les projets se déploient et qu'il faut certainement continuer l'effort pour atteindre les objectifs
qui ont été fixés. Alors parce que vous dites que, en effet, vous êtes d'accord pour revisiter ce qui avait été décidé, mais vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'il faut limiter l'effort uniquement aux 50 sites les plus polluants, et vous rappelez au pouvoir public que l'hydrogène peut servir à bien d'autres usages.
Absolument. En fait, l'idée qu'on poursuit, c'est de dire effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le contexte actuel, l'hydrogène c'est un vecteur sans lequel on ne réussira pas la transition énergétique. Et en même temps, l'enjeu de la promesse un petit peu de l'hydrogène, ça faisait partie des premières stratégies d'accélération de l'État, c'est l'idée de dire on constitue une filière industrielle compétitive.
Oui.
Donc on crée des équipementiers, on crée des champions industriels, on crée une filière sur le territoire français, on se rend souverain énergétiquement et industriellement. Et il nous semblait que c'était important de rappeler que l'aspect industriel et donc de soutenir, pour répondre à votre question, un certain nombre d'usages, notamment en mobilité, était le gage de la réussite de la filière industrielle.
Mais vous dites aussi, on risque de mettre en péril la filière hydrogène en France. Est-ce que, effectivement, vous dites, on veut créer une filière compétitive. Est-ce que vous n'avez pas encore besoin de prouver en 2023 que vous êtes une filière qui peut être compétitive? Parce qu'il y a encore beaucoup de défis associés à l'hydrogène vert aujourd'hui. Voilà, coût élevé, technologie en cours de développement, besoin d'infrastructures adaptées, difficultés de traçage. Est-ce que vous avez encore besoin de prouver des choses en 2023, peut-être? Absolument. Aux côtés des énergies renouvelables que sont le solaire et l'éolien, finalement.
Absolument. Alors, bon, nous, on est tout à fait en complémentarité des énergies renouvelables, hein, on le dit. Mais oui, on a besoin de prouver que l'amorçage va mener à une réussite. Pour l'instant, la filière hydrogène, c'est une filière récente.
En devenir.
En amorçage. Et donc, cet amorçage, il doit être soutenu. C'est une filière toute nouvelle et il faut y arriver. Il n'y a pas dans le monde beaucoup d'acteurs industriels qui sont significativement mieux positionnés que nos champions industriels français. Donc, on a tous les atouts dans notre manche. Une étude avait montré récemment qu'en termes également de dépôt de brevets, on était extrêmement bien. Donc, on a un secteur de la recherche très actif. Ouais. On a beaucoup de champions industriels sur toute la chaîne de valeur. Donc, on a tous les atouts pour réussir. Et on a un mix énergétique très décarboné qui nous donne aussi une avance sur nos partenaires européens pour développer nos projets et notre filière hydrogène.
Et pourtant, non mais excusez-moi, mais tout le monde n'est pas convaincu. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, qui a été auditionné il y a 8 jours à l'Assemblée, et qui dit que ceux qui croient à l'avion hydrogène mettent leur argent dedans, en tout cas ça ne sera pas mon cas.
Est-ce que vous avez vexé un peu ce genre de propos?
Non, alors il y a effectivement Airbus qui s'est mobilisé, qui a fédéré un certain nombre d'acteurs sur la perspective de l'avion à hydrogène. Il faut savoir qu'il y aura peut-être d'autres solutions, mais il y a des réglementations au niveau européen qui arrivent sur la décarbonation du secteur aéronautique et du secteur maritime, qui prévoient un certain nombre de ce qu'on appelle les SAF, parmi lesquels les dérivés d'hydrogène ou l'hydrogène auront tout à fait leur place.
Vous avez l'impression, pas sans s'attarder sur le propos d'Éric Trappier, mais qu'il y a encore besoin de convaincre des industriels. Voilà, je pose la question malgré tout. Vous dites, vous-même, on est à l'amorçage aujourd'hui.
Il y a besoin de convaincre.
Work in progress, voilà, pour
ça. Oui, mais il y a des progrès à faire. En fait, il y a une courbe d'apprentissage, comme dans toutes les nouvelles technologies, hein, les piles à combustible, les électrolyseurs, etc. On est au début de cette courbe, mais n'empêche qu'il y a des projets qui sont déployés. Sur la mobilité, on a 59 stations en France qui sont ouvertes. On a plus de 1000 véhicules qui circulent. Ça fonctionne. Après, qu'on doive convaincre les utilisateurs. Oui. De l'hydrogène, en effet, c'est vraiment un enjeu. Et d'ailleurs, c'est aussi un des objets de la stratégie hydrogène française qui a beaucoup investi dans les technologies, dans les équipements, dans l'offre.
Mais alors, justement, l'hydrogène, est-ce que vous pensez qu'ils ont investi assez? Est-ce que vous pensez que les montants sont à la hauteur des enjeux?
Alors, il y a beaucoup d'argent public qui a été mis sur la table, hein, plus de 9 milliards d'euros. Oui. Encore une fois, on n'est pas en train d'expliquer que l'État n'a pas tenu ses promesses. On dit juste, ça fait 2 ans que la stratégie a été lancée. Elle avait un grand mérite, elle était cohérente, elle avait une approche très globale. Il faut poursuivre cet effort-là. Il y a beaucoup d'investissements publics qui ont été mis en place, en particulier sur les équipements en mobilité, les fameuses gigafactories.
Oui, oui,
si on s'arrête au milieu du guet aujourd'hui parce qu'on décide de ne pas donner sa chance à des nouveaux usages ou de ne pas poursuivre un petit peu un pas supplémentaire jusqu'à réussir, en fait, on aura investi un peu en vain. Donc, au contraire, il faut poursuivre cet effort.
Il faut créer des sites intermédiaires, notamment en France. Voilà, d'hydrogène aujourd'hui, il n'y en a pas assez en France, finalement. C'est ça.
Il faut, en fait, aux côtés des grosses masses, des grosses industries à décarboner avec de l'électrolyse très massivement, il faut servir des usages plus diffus sur le territoire, des industries plus diffuses et de la mobilité. Et en effet, ça appelle des projets un peu de plus petite taille pour commencer.
Et ben voilà, donc le manifeste de France Hydrogène aujourd'hui à l'intention du gouvernement. Merci beaucoup Christelle Verquin, merci de passer nous voir ce soir, la déléguée générale de l'association France Hydrogène avec nous ce soir sur BFM Business. Merci de passer nous voir. 18h19, on revient dans un instant.
Et oui, avec le grand débat et ses éditorialistes, on va parler de l'inflation qui reflue enfin.
Oui, on va parler de ces grands groupes qui ne se cachent plus, hein, que ce soit Stellantis hier et Total aujourd'hui qui cèdent aux sirènes de l'IRA américain. On parlera de ce qui s'est passé autour de Louis Le Duf qui doit capituler devant les défenseurs de l'environnement, qui n'ouvrira pas sa grande usine de viennoiserie. Et puis, Standard & Poor's, c'est le petit jeu cette semaine, hein, finalement.
On va lancer les pronostics.
Standard & Poor's va-t-elle dégrader la France? On en parle tout ça jusqu'à 19h, bien sûr.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h23, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Bonsoir Audrey. Audrey Loye est avec nous. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Présidente de l'association Croissance Plus. Emmanuel Chypre est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et Henri Stardignac. Bonsoir, bonsoir Henri, économiste fondateur des Économistes Intérêts. Alors la bonne nouvelle du jour.
Intérêt.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Intérêt.
Intérêt.
Taux d'intérêt, c'est votre obsession.
Ah oui, il doit y avoir un lapsus quelque part. Oui, c'est ça. Toutes mes excuses, Henri. La bonne nouvelle du jour, donc l'inflation.
Oui.
Chiffre de l'INSEE ce matin qui reflue. On passe de 5,9 fin avril à 5,1% fin mai. Commentaire ce matin, vous le voyez si vous nous regardez à la télévision. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Nous avions dit que l'inflation connaîtrait son pic au cours de ce semestre. Il est même probable que nous ayons déjà passé ce pic. A-t-on passé le pic, Henri Stardignac? Bruno Le Maire a dû nous le promettre une bonne douzaine, demi-douzaine de fois quand même depuis un an finalement.
Ben, vous savez qu'il ne faut pas regarder les chiffres mois le mois, que les chiffres en rythme annuel, bon, ben, ils dépendent non seulement de ce qui se passe cette année, mais ce qui s'est passé également il y a l'année dernière. Donc voilà, il ne faut pas trop regarder le chiffre au mois, mais bon, quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup plus bas, c'est nettement plus bas que ce que l'INSEE avait annoncé, donc c'est une bonne nouvelle. On a par ailleurs une baisse des prix du pétrole, une baisse importante des prix du gaz. Il reste encore des matières premières agricoles dont le prix reste élevé. Et voilà, donc tout ça nous amène à dire que quand même, on a sans doute passé le pire. Il faut rappeler quand même que les travailleurs, les salariés ont perdu environ 4% de pouvoir d'achat avec l'accélération de l'inflation. Et donc, le grand problème, c'est est-ce que c'est tant pis pour eux? Ben voilà. Et
ça, on va en parler après.
Il leur reste leurs yeux pour pleurer, ou est-ce qu'ils vont réussir petit à petit à récupérer ces 4% et à relancer une boucle prix-salaire qu'on n'a pas vue jusqu'à présent? Audrey.
Oui. Non, mais en tout cas, je partage en effet votre avis, Henri. Je pense que le pic de l'inflation, il est passé. C'est quand même une très bonne nouvelle, notamment pour les 2 millions de familles monoparentales qui sont le plus touchées en France par la pauvreté et que l'inflation, évidemment, percute de plein fouet. Maintenant, je pense que ça reste quand même un pari risqué de la part de Villeroy de Galhau de s'engager sur un 2% en fin 2024, parce que ça va arriver très vite. Oui, le prix des matières premières baisse, Emmanuel Le Chypre va nous expliquer tout ça dans un instant formidablement, mais je vous rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, 1er juin 2022, Bruno Le Maire nous disait le plus dur de l'inflation, c'est maintenant, elle va refluer très vite, et aujourd'hui, on vit avec une inflation quotidiennement à deux chiffres. Donc, l'obsession, je dirais, du gouvernement de vouloir absorber cette inflation, de vouloir casser cette spirale des prix, je pense que c'est un vrai piège politique, parce que c'est une redoutable machine à générer de la déception, parce qu'en fait le gouvernement est très limité dans les outils à utiliser, parce que je vous rappelle que la France a transféré de la maîtrise de sa politique monétaire il y a 25 ans à Bruxelles.
Audrey Loye, comment est-ce que vous regardez ça, vous? Est-ce que vous dites aussi pari hasardeux quand même là,
Non, alors on est évidemment très positif et on est très content de voir l'inflation baisser. En revanche, pour l'instant, dans nos entreprises, on n'en voit pas la couleur pour l'instant. Oui. On a encore des grosses problématiques au niveau de l'énergie, évidemment, voire même souvent des bras de fer avec les fournisseurs d'énergie. Donc on attend là aussi des mesures très incitatives de la part du gouvernement pour les inciter justement à pouvoir renégocier les contrats avec les entrepreneurs.
Ça vous fait demander au gouvernement, aux pouvoirs publics de reconvoquer les énergéticiens, c'est ça en quelque sorte là?
Pour l'instant, nous n'avons aucun pouvoir de négociation avec les énergéticiens pour renégocier nos contrats à la baisse, maintenant qu'on voit cette baisse. Et je vous rappelle que nos prix ont augmenté entre 130 et 240%. C'est absolument énorme. Donc voilà, on attend du gouvernement effectivement quelques mesures incitatives.
Tout ne baisse pas. Les fournisseurs disent aussi qu'ils sont sommés de se remettre autour de la table. Dit tout ne baisse pas. Effectivement, on se focalise sur le blé et tout, mais il y a des matières premières agricoles, alimentaires qui ne baissent pas. Emmanuel, est-ce qu'on a passé le pic?
Ah oui, on a probablement passé le pic. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'il y a dans les tuyaux, on ne voit que des baisses. C'est-à-dire que déjà il y a des prix qui baissent aujourd'hui dans la grande distribution. Vous prenez tout ce qui concerne les marques de distributeurs, c'est déjà en train de commencer à baisser. Après, quand vous regardez en amont, quand vous regardez les prix à la production, sortie d'usine ou sortie de ferme, on est quand même sur des baisses assez spectaculaires. Sur les prix industriels, alors ce qui est très amusant, c'est que si vous regardez les prix importés, les prix des produits importés de l'étranger, grosso modo, depuis un an, on est à moins 10%. Si vous prenez les prix des produits industriels fabriqués en France, on est encore à plus 5%, même si ça baisse depuis le début de l'année.
sur après tout ce qui est effectivement tout ce qui rentre dans les coûts, c'est-à-dire toutes les matières premières, le pétrole on est quand même plus bas, l'électricité, le gaz, on l'a divisé par 7-10 sur les marchés. Je vais y venir. Et voilà. Et puis l'emballage et puis le transport, tout ça coûte beaucoup moins cher.
Plastique et verre, hein, les fournisseurs disent plastique et verre, c'est pas vraiment ça encore. Hein,
sur le.
C'est vraiment au cas par cas alors, cette affaire. Hein,
oui, alors après il y a quelques matières premières, il y a le chocolat, il y a le jus d'orange, il y a tout ça qui ne baisse pas, mais grosso modo, après il y a quand même des renégociations qui arrivent. Ouais. Donc on peut penser que finalement on va quand même avoir des prix qui ralentissent. 2% fin 2024. Bon, là, en fin d'année, on va sans doute être autour de 3,5. Il y a une bonne nouvelle par rapport à l'idée de boucle prix salaire que développait Henri tout à l'heure, c'est que les prix des services ont plutôt tendance à ralentir. C'est là qu'on craignait la boucle prix salaire. Or, je rappelle que les services, c'est quand même la moitié de ce que dépensent les ménages. Et puis, quand même, moi, je veux bien entendre les entreprises qui disent qu'elles ont des difficultés. Mais si vous regardez d'autres indicateurs publiés par l'INSEE ce matin, notamment les comptes de la Nation, et que vous regardez le taux de marge des entreprises, vous vous dites quand même, il y a énormément d'entreprises qui ont réussi à passer.
Et c'est lui qui le dit, hein.
Il
y a un changement. C'est pour ça qu'il y a un changement.
Au niveau macroéconomique, s'entend.
C'est pour ça qu'il y a un changement. Comme on l'a dit, il n'y a plus de boucle prix-salaire. Maintenant, il y a une boucle prix-profit.
Absolument.
Et il y a certains secteurs qui s'en sortent très bien, en particulier.
Absolument.
L'industrie agroalimentaire, l'agriculture, naturellement l'énergie, le transport et d'autres effectivement qui sont en mauvaise situation, comme par exemple hôtel, café, restaurant et les services aux entreprises.
Ça tombe bien puisque l'industrie agroalimentaire est censée s'en mettre autour de la table. Bruno Le Maire a dit jusqu'à fin mai, on est le 31 mai, il ne se passe rien pour l'instant. On revient dans un instant, on repart sur ce qui est arrivé à Louis Le Duf. Voilà, est-ce que c'est les limites de la réindustrialisation? Puis toutes ces boîtes françaises, grands groupes français qui commencent ouvertement à céder aux sirènes de l'IRA américain. Bien sûr, on raconte tout ça dans un instant.
À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business, c'est Faiza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir Faiza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Carrefour envisagerait de supprimer 1 000 000 d'emplois en France. D'après l'hebdomadaire spécialisé LSA et des sources qui se sont confiées à l'AFP, le groupe n'a pas souhaité faire de commentaires vendredi dernier en marge de l'Assemblée Générale du groupe. La CFDT exprimait ses craintes sur une restructuration possible avant la fin de l'année. Très nette baisse de l'inflation en France au mois de mai, plus 5,1% selon la première estimation de l'INSEE. À près de 5,9% en avril. Et c'est grâce au ralentissement de la hausse des prix alimentaires et de l'énergie. Une tendance qui s'observe également dans d'autres pays d'Europe. En Allemagne, l'inflation est au plus bas depuis un an, à 6,1% en mai. Elle a même reculé plus que prévu, mais la BCE prévient. La bataille contre l'inflation n'est pas gagnée, même si ces derniers chiffres sont positifs. L'UFC Que Choisir porte plainte contre 8 sites de e-commerce, parmi eux Amazon, La Redoute ou encore Cdiscount. L'association de défense des consommateurs accusent de pratiques commerciales trompeuses. Selon elle, seulement 3% des annonces avec des prix barrés correspondent à de véritables promotions. Le bras de fer entre l'opposition et la majorité sur les retraites, le groupe indépendant Liot va déposer un amendement pour rétablir l'article sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Il a été supprimé ce matin lors du vote de la Commission des affaires sociales. Elle examinait la proposition de loi soutenue par l'opposition. Ce texte doit arriver le 8 juin prochain dans l'hémicycle. La NUPES dénonce des manœuvres pour empêcher le vote. La majorité, elle, accuse la gauche de faire obstruction. Après les perturbations des assemblées générales, cette pression supplémentaire sur les questions environnementales, 300 institutions financières de premier plan appellent les groupes à fort impact climatique à publier toutes leurs données sur leurs émissions. Elles ciblent notamment Tesla, Spotify ou encore ExxonMobil. Et on termine avec ce code de conduite commun sur l'intelligence artificielle. L'Union européenne et les États-Unis avancent sur la régulation du secteur. Ce code de conduite va être présenté dans les semaines qui viennent, précise Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. Il sera ouvert à tous les pays qui partagent les mêmes idées. Rappelez-vous, hier, Sam Altman, le créateur de ChatGPT, et un groupe d'experts ont alerté dans une tribune commune sur les risques d'extinction de l'humanité qui sont liés à l'intelligence artificielle. On jette un coup d'œil à la clôture de la Bourse de Paris. Ce soir, le CAC 40 recule de 1,54% et clôture sous le seuil des 7100 points à 7098 points.
Merci beaucoup Faiza. 18h33, c'est reparti pour le grand débat sur BFM Business.
Good evening business, le débat.
Avec André Tcherkov, avec Audrey Loye, avec Henri Sterdignac et avec Emmanuel Le Chip. Encore un petit mot là sur l'inflation, Audrey, puis on va passer à l'IRA américain après.
Oui, alors juste un mot rapide pour dire quand même qu'il n'y a qu'en France que l'économie est toujours un problème politique. Nulle part ailleurs on demande à l'État de gérer le chômage, nulle part ailleurs on demande à l'État de gérer les prix. Alors, oui, l'Espagne et le Portugal ont baissé la TVA sur certains produits alimentaires, c'est vrai. La Hongrie, de son côté, elle a bloqué certains prix, ce qui a d'ailleurs provoqué des pénuries. Mais enfin, quels grands États occidentaux ont l'habitude de convoquer à intervalles hyper réguliers, à la fois distributeurs et industriels, de l'agroalimentaire pour parler des prix en rayon? Aucun. Et ça, c'est quand même parce qu'en France, plus qu'ailleurs, les Français attendent du politique qu'il améliore son quotidien.
Non, mais c'est surtout parce qu'en France, les règles de la concurrence ne sont pas respectées. C'est-à-dire que si on avait un niveau de concurrence qui soit comparable en France à ce qu'il est dans la moyenne des pays de l'OCDE, il y aurait beaucoup moins de secteurs protégés, il y aurait beaucoup plus d'emplois. 1 million d'emplois, nous dit l'OCDE, et on n'en serait pas à essayer de contourner des règles qui sont toujours au départ censées favoriser le consommateur, parce qu'il faut rappeler que cette histoire de négociation, par exemple, qui n'ont lieu qu'une fois par an, c'était au départ pour protéger les consommateurs. Bon, on voit le résultat final. Donc, laissons faire la concurrence, laissons faire les lois du marché, que les producteurs, que les groupes d'agroalimentaire et les distributeurs négocient régulièrement sur l'évolution des
oui,
prix.
Oui, mais en tout cas, il y a combien de gros distributeurs en France? On peut pas dire on fait appel à la concurrence quand on a autant que je me souviens 5 gros distributeurs 5, 6, au total oui. Et que les producteurs en face sont démunis. Donc
Parce qu'Henri, vous pleurez.
Je pleure pas.
Mais si, vous pleurez sur le sort de Nestlé, de Danone, de Coca-Cola, etc.
Non, mais je dis.
Alors
que
c'est pas son genre.
D'autres. Il y a d'autres solutions. On pourrait dire l'inverse de votre position, c'est-à-dire dire bon. Ben voilà, il faudrait peut-être que l'État contrôle un peu certains prix, en particulier les prix de gaz quand les prix sur les marchés.
Allez, on va reparler de l'IRA américain parce que là, depuis 24 ans, on a l'impression que c'est open bar, que les grandes entreprises françaises ne se cachent plus vis-à-vis de l'IRA américain. Il y a donc Total qui annonce aujourd'hui un gros investissement pour aller produire du gaz de synthèse aux États-Unis. Puis hier, on en a parlé, il y a eu Stellantis.
Alors avec son patron, en effet, Carlos Tavares, qui a jeté un léger froid hier, lors de l'inauguration de la première gigafactory, en disant qu'il irait bien ouvrir une ou deux usines aux États-Unis. On l'écoute tout de suite.
Nous réfléchissons évidemment à de nouvelles usines aux États-Unis. Vous savez que nous en avons déjà deux. Une au Canada qui fait l'objet de quelques discussions avec le gouvernement canadien. Une autre aux États-Unis. Et nous savons que nous allons avoir besoin d'une troisième, voire d'une quatrième. Donc il y aura des annonces sur une troisième et une quatrième usine aux États-Unis qui vont venir. Évidemment que le IRA américain crée des conditions très favorables pour ces investissements.
Voilà le grand plan anti-inflation américaine. Vous craignez là que ça s'accélère, Audrey, Total, Stellantis et puis d'autres demain qui cachent moins ou moins leur ambition finalement.
Alors, vous regardez ça, risque de vous surprendre, je trouve que, enfin, il ne faut pas confondre protectionnisme, souveraineté et protectionnisme. Donc, effectivement, chez Croissance Plus, on défend une politique très souveraine pour favoriser les achats responsables. En revanche, dans ce que j'ai pu entendre effectivement hier, ce que j'ai entendu, alors peut-être je suis assez crédule, mais c'était surtout pour le marché américain. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'exportation, etc. Donc, cette démarche opportuniste, je l'entends, je la comprends. Maintenant, je pense que plutôt que de contrer... Enfin, il faut contrer l'IRA par des problématiques, par un Buy European Act. Il faut aussi avoir une démarche responsable de notre côté, c'est-à-dire travailler collectif, les PME, les ETI, les grands groupes, les collectivités locales, avoir une démarche d'achat responsable et une culture de la souveraineté. Et ça, il n'y a que nous, entreprises, qui puissions avoir cette politique-là. Alors, chez Croissance Plus, on défend évidemment l'indice de proximité, vous le savez, c'est-à-dire essayer de chaîner les commandes françaises avec les entreprises françaises. On entend quand même cette petite musique-là un peu partout. On l'entend dans le projet de loi Industrie Verte, où le label triple sera chaîné avec de la commande publique. On l'entend également dans le projet Jeune Entreprise Innovante, de la même façon. Donc, je reste optimiste.
Emmanuel, non, vous croyez, vous, l'accélération, là, que ça parte un petit peu dans tous les côtés, toutes les grandes entreprises françaises, Stellantis, il dit ça aux côtés de Bruno Le Maire hier, quand même, le patron de Stellantis.
Oui, mais n'oubliez pas que Stellantis n'est pas une entreprise française. Non, mais je veux dire, ça n'est pas que PSA. Donc, Stellantis, c'est aussi une entreprise américaine.
Total Energy, pardon.
Donc, il est important que, effectivement, il résonne mondial. Ce sont des groupes qui résonnent au niveau mondial. Total Energy, c'est pareil. Total a toujours été dans tous les pays où il y avait de l'énergie à chercher. Et voilà. Donc, on peut pas exiger, enfin, je veux dire, un patriotisme qui aille au-delà de certaines limites du raisonnable.
Non, mais vous pouvez faire en sorte, effectivement, qu'avoir des arguments financiers pour retenir ces investissements. Allez, faire en sorte
les capitalistes, comme le dit si bien Emmanuel Le Chip, les capitalistes n'ont pas de patrie. Donc, la question se
Emmanuel
pose.
Emmanuel a dit ça.
La question se pose pas vraiment.
Ça m'étonne. Mais...
Par ailleurs, il faut. Oui. Il faut rappeler que cette méga usine a bénéficié de 1,3 milliard de
financement
fonds
public.
Sur les 7 milliards d'investissements. Donc, a priori, nous sommes dans une situation où tous les pays du monde vont subventionner plus ou moins massivement leurs industries. Et donc, l'important, c'est que l'Europe ne soit pas paralysée par des règles obsolètes de concurrence, qu'elle puisse effectivement financer une réindustrialisation verte, et que on demande quand même aux entreprises, pour dire un mot qui fâche, des contreparties, c'est-à-dire le fait que quand même il y a de l'emploi créé, que ce soit bien effectif, ça se place effectivement dans le cadre de la réindustrialisation verte. Et par ailleurs, il faut pas oublier que d'un côté, effectivement,
c'est jamais simple les contreparties.
Il faut aider les entreprises innovantes, et de l'autre côté, il faut pas oublier les entreprises traditionnelles. On a vu tout à l'heure une entreprise de produits pharmaceutiques qu'on est en train de fermer. À côté de cette méga usine qui va créer 2000 emplois, on ferme la fonderie mécanique où on va perdre 6000 emplois, dont on dit aux 6000 emplois perdus, une partie iront dans les 2000 là, mais il y a quand même une perte nette.
Audrey.
Non, mais moi je trouve que cet IRA américain révèle finalement toutes nos contradictions, parce que dès qu'en France on veut mettre en place des mesures pour le climat, on hurle en disant attention, on est les seuls à le faire, ça nous pénalise, et en fait la France à l'échelle mondiale est une goutte d'eau, donc ça ne servira à rien. Quand les États-Unis le font, je rappelle que c'est quand même le deuxième émetteur de gaz à effet de serre au monde, alors là on hurle en disant qu'ils sont trop protectionnistes. C'est une très bonne nouvelle que les États-Unis, que les Américains soient à bord de cette transition climatique et qu'ils investissent massivement dans les énergies décarbonées. Maintenant, sur le sujet de la compétition mondiale, une chose est claire, c'est que l'année 2022, avec le Green Deal, l'IRA américain, avec les politiques chinoises, c'est clair qu'elle restera dans l'histoire comme l'année où la compétition mondiale, en effet, sur le sujet, s'illustre autrement que par des PowerPoint, mais vraiment concrètement dans les politiques publiques, et c'est très bien.
En plus, on voit bien que, de toute façon, la concurrence, elle a toujours existé, mais elle change de forme. C'est-à-dire qu'on a eu la volonté de réduire notamment la concurrence fiscale. C'est-à-dire qu'on a voulu aller vers une forme d'harmonisation de la fiscalité sur les entreprises. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la course au moins 10 ans fiscal sur la taxation des profits, etc., c'est un peu ralenti. Mais il ne faut pas rêver. On voit bien que la concurrence, de toute façon, pour attirer les entreprises, elle se déplace sur d'autres terrains. Et là, typiquement. Et puis n'oubliez pas que tout n'est pas faisable depuis la France. Quand vous êtes Total Energy, si vous allez faire des choses qui concernent la décarbonation de l'économie, vous êtes bien aussi obligé de vous implanter dans des pays étrangers.
Allez, 18h42, tout n'est pas faisable en France. On va parler de ce qui est arrivé à Louis Le Duf, là, qui doit capituler devant les défenseurs de l'environnement. Il voulait ouvrir une grande usine de viennoiserie quelques 20 km de Rennes. Il doit refuser, il doit renoncer. 500 emplois à la clé qui sont perdus désormais. On raconte ça dans un instant. Et puis Standard & Poor's, bien sûr.
Oui, on va lancer les pronostics.
On est sur Standard & Poor's.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, la dernière partie du débat, 18h45 avec Audrey Tcherkov, Audrey Loye, Henri Stardignac et Emmanuel Le Chypre. Alors sur la réindustrialisation, on posait la question, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le discours et la pratique? Je vais vous faire réagir à ce qui est arrivé à l'industriel Louis Le Duf, qu'on connaît bien, auditeur célèbre de BFM Business, qui a décidé de renoncer à son projet d'usine de viennoiserie. Ça se passe à Liffré, près de Rennes. Il y avait 500 emplois potentiellement créés. Il a dû renoncer face aux actions entreprises par des défenseurs de l'environnement depuis quelques années, qui dénonçaient, un, l'utilisation de terres agricoles, deux, le trop gros recours à l'eau pour le faire fonctionner. Comment est-ce que vous avez regardé cet épisode? Est-ce que vous dites, bah, c'est une défaite en race campagne, si vous me passez l'expression, pour la réindustrialisation du pays, finalement, Audrey?
Mais alors, ce que je regrette personnellement, c'est que, évidemment, enfin, on le voit bien, ce projet, il oppose quoi? Il oppose l'écologie à l'économie, alors que, évidemment, les deux sont complètement indissociables et on ne réussira jamais à créer une société durable sans embarquer tout le secteur industriel. Donc, évidemment, une première pensée, surtout pour les familles qui misaient beaucoup sur ces 500 emplois qui devaient être créés, emplois d'ouvriers et de techniciens notamment. Surtout que le DUF, c'est quand même une fierté française, c'est tout un symbole. Et ce qui me gêne finalement dans ce projet, c'est que finalement les opposants, les militants n'ont pas cherché à améliorer le projet. Parce que ce qu'ils critiquaient, c'était pas le projet en lui-même, mais c'est ce qu'est le DUF. Sa taille, son modèle d'export, vendre des croissants à l'autre bout du monde, c'est, ça n'est pas en phase avec leur idée de la décroissance à mettre en place. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a deux mondes qui s'opposent.
Henri Stardignac.
Du croissant surgelé, quand même.
Oui, bah,
c'est quand même pas fabuleux, les viennoiseries surgelées de monsieur...
Ah oui, bah ça c'est sûr qu'ils vont aller faire cuire leur croissant ailleurs.
Non, mais d'accord, mais le problème...
c'est ça.
Le problème, d'abord, c'est est-ce qu'effectivement il faut développer cette industrie agroalimentaire exportatrice au détriment des producteurs locaux.
500 emplois.
Et puis ensuite, 500 emplois. On vient d'en détruire 6000 à la française de mécanique, ça affole personne. On apprend maintenant 1000 qui vont disparaître à Carrefour, ok, 500 emplois, ok, mais le problème c'est des emplois pourquoi? Et surtout, bon, ben, y a évidemment, comme Audrey l'a dit, ben, y a un choix à faire entre l'industrie, entre la réindustrialisation et la transition écologique, et il faut que ça marche de concert. Et là, on n'avait pas un projet qui, où les deux marchaient de concert, on détruisait une zone agricole, des terrains agricoles, une zone humide, alors que justement on a dit que dorénavant
pour leur défense, Henri, ils ont proposé de réimplanter des zones humides ailleurs.
Oui, d'accord, mais ça,
ils ont apporté des réponses à toutes les oppositions.
On sait très bien que c'est fictif. Hein, on dit qu'on va planter des zones de la forêt ailleurs, mais tout ça, ça compense pas la destruction de ce qui existe. Effectivement, en tant que biodiversité, ce qu'on peut regretter, c'est que ce producteur, cette entreprise, n'ait pas cherché un autre endroit que ce magnifique paysage agricole pour sa production. Audrey. Production qui, je le répète, ne s'inscrit pas vraiment dans la transition écologique.
Audrey Louaille.
Mais est-ce que c'est à nous à trouver, à objecter le business model de cette société sur le fait de produire des croissants surgelés en Bretagne pour le marché international? Moi, j'estime que à nous à devoir gérer la stratégie de cette entreprise-là.
Ce sont des
croissants surgelés, il n'y a aucune valeur ajoutée. Je pense qu'on peut avoir de l'innovation absolument partout. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas de valeur ajoutée pour juger la stratégie de cette entreprise. Ce que je trouve dommage, en revanche, c'est qu'effectivement, c'était créateur d'emplois, d'une part. D'autre part, il y a deux points qui m'inquiètent. C'est que d'une part, la désindustrialisation, elle a été aussi liée à un manque, un désamour de l'industrie par la France, et donc on a absolument besoin d'aimer nos entreprises, de les soutenir, on peut innover dans n'importe quel domaine, et pourquoi pas dans les croissants surgelés. Donc soutenons ça. Et le deuxième point, si je puis me permettre, c'est effectivement l'administration kafkaïenne qui aujourd'hui a été un frein pour le DUF, et je pense que le projet industrie verte aussi travaille sur la parallélisation avec 18 mois uniquement pour monter un projet administratif.
Emmanuel.
Moi, effectivement, je suis d'accord avec vous. vous, on n'a pas à juger, encore une fois, un entrepreneur, il développe un business, on n'est pas des autorités morales, comme Henri aimerait qu'on en ait, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est honorable, ça c'est pas honorable. Alors on a déjà compris qu'il fallait pas une usine de produits de luxe en France, parce que c'est scandaleux d'acheter des sacs à main de luxe. Maintenant, on n'a plus le droit de produire des croissants surgelés pour les envoyer ailleurs. Moi, ce qui m'en gêne, premièrement, c'est cette espèce de dictature morale de ces gens qui imposent et qui disent que les croissants, c'est pas bien, c'est de la malbouffe, etc. Ce qui me gêne encore plus, c'est que finalement, c'est une minorité bruyante qui, une fois de plus, impose ses choix à la majorité silencieuse des Français. Et ça, c'est quand même assez déplorable. Donc, on ne me parle pas de démocratie. Il y a une forme d'autoritarisme, voire de dictature de l'opinion, enfin, d'une petite partie de l'opinion. Voilà. Après, il y a effectivement l'aspect kafkaïen de l'administration française, parce que ce problème aurait pu être résolu sans doute beaucoup plus vite. Il y avait peut-être d'autres endroits pour installer cette usine, notamment sur les friches, parce que maintenant on peut apparemment les installer sur les friches. Mais en même temps, quand vous êtes entrepreneur, vous comprenez que il y a un moment où vous n'avez pas non plus encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à perdre en formalité, où vous préférez aller voilà. Donc c'est ça qui est embêtant. C'est un, le signal que ça envoie, parce que là encore, on parlait de la guerre fiscale, de la concurrence pour l'implantation, etc. Je veux dire, quand vous êtes une entreprise étrangère, que vous regardez comment ça se passe en France, que vous voyez qu'il y a des intégristes écolos qui vont vous enquiquiner, que vous avez derrière des pouvoirs publics qui vont encore plus vous compliquer la vie, vos usines, vous irez les installer ailleurs.
C'est ce qui va faire.
Oui, absolument.
Et il y a qui derrière tout ça? Il y a des gens qui sont soit des retraités qui vivent déjà très bien et qui veulent pas que finalement on leur dérange leur petit coin de verdure près de chez eux. Il y a des zadistes qui vivent du RSA et qui finalement font pas grand chose de leur vie à part voilà. Non mais
bon, c'est un peu caricatural, Emmanuel.
Allez, le problème c'est que monsieur,
et ils avaient les autorisations des pouvoirs publics,
monsieur a une idée géniale disant je vais faire mon usine à la campagne, les terrains sont moins chers, etc. Mais la réalité, c'est non. Je veux dire, on peut très bien dire oui, il faut réindustrialiser, oui, il faut la transformation écologique, mais en aucun cas on peut avoir l'idée on va laisser n'importe quel chef d'entreprise s'emparer d'un espace, d'une terre agricole. Et par ailleurs, je suis désolé, mais nous avons collectivement maintenant une responsabilité pour la transition écologique, et on peut pas dire on va produire n'importe quoi. Moi j'ai une idée géniale, je vais faire des
Non, mais on s'ira pas sur soi économique.
Vous pouvez toujours avoir vos exigences.
Emmanuel.
La réalité c'est que si un entrepreneur, il est libre de faire ce qu'il veut, il va créer de l'emploi ailleurs.
On n'est pas d'accord en effet sur le fond. Ce qui nous met d'accord en revanche tous les quatre, ce sont les lenteurs administratives que met en exergue ce projet et contre lequel se bat le plan de réindustrialisation. Parce que quand on regarde les échéances, c'est un projet qui est lancé en 2017. Oui. L'usine doit ouvrir en 2021. On est en 2023. Pas une pierre posée à cause des recours déposés, en effet. Il faudrait attendre 2026 pour que toutes les actions en justice elles soient traitées. Ensuite, il y a 2 ans de construction, on arrive à 2028. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le temps de la vie économique, là où les concurrents étrangers mettent 1 ou 2 ans à construire des usines. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on en parlait hier, pour la Gigafactory inaugurée, on a mis moins de 3 ans. Donc on voit bien quand même que quand il y a de la volonté politique, tout est possible.
Allez, il nous reste 3 minutes, nous allons jouer un petit jeu très amusant. On a commencé hier et ça nous amuse bien, donc on recommence ce soir. La France attend Standard & Poor's donc vendredi soir. Est-ce que ça sera juste après la clôture des marchés ou bien plus tard, les agences de notation nous font languir. Standard & Poor's va-t-elle, oui ou non, dégrader une nouvelle fois la note de la France? On va faire un petit tour de table, vous disiez non.
Alors moi, je n'ai pas changé d'avis depuis hier. En effet, moi, je ne pense pas que la note soit dégradée. Je pense que la feuille de route sur la trajectoire budgétaire va réussir à les convaincre.
Bon, Audrey, pas d'avis.
Joker.
Emmanuel Le Chypre.
S'il y a bien un argument qui ne doit pas les convaincre, c'est les feuilles de route transmises par Bercy, puisque depuis 30 ans, jamais on a respecté la moindre feuille de route qu'on a transmise à toutes les agences, à Bruxelles, à Standard & Poor's. Et les conditions pour que la trajectoire soit respectée, elles sont encore moins réunies que d'habitude. Quand vous voyez toutes les promesses qui sont faites côté dépenses, toutes les promesses qui sont faites côté « il n'y aura pas de hausse d'impôts », et toutes les promesses qui sont faites côté « on va réduire les déficits ».
Attendez, on va écouter juste 20 secondes Bruno Le Maire qu'on a remis une couche lui ce matin, pour que le message soit bien clair. Écoutez, tiens.
Maintenant que nous sommes
L'inflation est en train de reculer. Nous devons accélérer le désendettement. Je rejoins parfaitement Pierre Moscovici, avec qui nous discutons très régulièrement. Il faut accélérer le désendettement du pays. Nous le ferons. Et je ne veux laisser aucune ambiguïté, Nicolas Demorand, à ce sujet. Nous serons intraitables sur le rétablissement de nos finances publiques, sur la réduction des déficits.
Ah bon, bah alors ?
Mais non, mais vous pouvez. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse le travail de retrouver la même déclaration faite par tous les ministres des Finances depuis 30 ans. Donc, si vous voulez, en quoi les Standard & Poor's pourraient nous croire ? Alors après, il y aura peut-être des tractations politiques.
Ils se parlent.
Dire attendez encore.
Ou financières.
Un peu,
ils se parlent.
Mais moi, je pense que ça mériterait d'être abaissé.
Donc, oui ou non, ça mériterait d'être abaissé, qui dit.
Eh ben, ça sera abaissé, moi, je dis.
Bon, d'accord. D'accord. Henri.
Enfin, on ne restera pas dans le statu quo.
Bon, une grosse majorité.
Je pense que c'est complètement fictif, c'est-à-dire que personne sur aucun marché financier ne croit une seule seconde qu'il y a le moindre risque sur la dette publique française. La dette publique française, hier on a émis à 2,8%
à 10 ans,
on émet à 0,2 ou 0,3% en taux indexé, donc à des taux extrêmement ridicules. Donc il n'y a strictement aucun risque sur la dette publique, etc. Donc cette notation n'a strictement aucun sens. Mais je pense que, compte tenu de ce que vient de dire Emmanuel, je pense qu'effectivement, SCP peut nous dégrader, tout simplement pour marquer le coup, parce que effectivement, quand Bruno Le Maire dit je vais désendetter la France, en même temps, ce qu'il présente à Bruxelles, c'est quand même un plan où la dette publique.
Non, mais d'accord, mais ce que vous dites, oui, c'est que la note française, elle soit dégradée ou pas, finalement, ça ne changera rien à l'attractivité.
Ça changera rien à l'attractivité, puisque les marchés, qui sont aussi intelligents que Standard & Poor's, savent ce qu'il en est. Donc, il peut nous dégrader. Il va le faire pour le plaisir, mais ça ne changera pas grand-chose.
Bon,
pour
les paris sont lancés.
Pour le plaisir, je ne sais pas. Bon, on verra ça, évidemment.
Il faut bien qu'ils existent.
Après, attention, ils jugent une capacité à rembourser la dette. Oui. Ils ne jugent pas la trajectoire des finances publiques en elle-même. Donc, s'ils considèrent.
Elle est quand même largement prise en compte, Emmanuel, dans la décision.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils considèrent qu'il y a suffisamment de bijoux de famille pour qu'on rembourse notre dette sans problème. Et c'est vrai que c'est souvent un des arguments qui est avancé.
Comme en Grèce,
on a quand même, l'État a quand même un patrimoine, etc., plus qu'ailleurs.
C'est pour ça que je termine comme en Grèce. C'est fini.
On fait tourner notre dette, on n'a jamais à la rembourser, et le BCE va pas nous jeter de la zone euro.
Et ça fait des années que ça se passe comme ça, en l'occurrence. Merci à tous les trois d'être venus. Audrey Louaille, président de Croissance Plus. Merci beaucoup, Audrey. Henri Sterdignac, économiste, fondateur des économistes atterrés. Je l'ai bien dit. L'ai-je bien descendu. Et Emmanuel Hochy pour BFM Business. Merci à tous les trois. Merci. À très vite. 18h58.
Eh bien, écoutez, restez avec nous, on marque une pause, mais on se retrouve pour une interview passionnante sur les métiers de l'artisanat dans un instant.
C'est la semaine nationale de l'artisanat qui commence. Voilà. Occasion de rappeler tous ces métiers qui embauchent, qui offrent des perspectives de carrière. Joël Fournet, président de CMA France, avec nous dans quelques minutes, évidemment. Puis l'inflation qui décélère, on y revient avec Thomas Asportas dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.